Bergson, le rire, chapitre 2. Nous avons étudié le comique dans les formes, les attitudes, les mouvements en général. Nous devons le rechercher maintenant dans les actions et dans les situations. Certes, ce genre de comique se rencontre assez facilement dans la vie de tous les jours, mais ce n'est peut-être pas là qu'il se prête à l'analyse le mieux. S'il est vrai que le théâtre soit un grossissement et une simplification de la vie, la comédie pourra nous fournir, sur ce point particulier de notre sujet, plus d'instructions que la vie réelle. Peut-être même devrions-nous pousser la simplification plus loin encore, remonter à nos souvenirs les plus anciens, chercher dans les jeux qui amusèrent l'enfant la première ébauche des combinaisons qui font rire l'homme. Trop souvent, nous parlons de nos sentiments, de plaisir et de peine, comme s'ils naissaient vieux, comme si chacun d'eux n'avait pas son histoire. Trop souvent, nous méconnaissons ce qu'il y a encore d'enfantin, pour ainsi dire, dans la plupart de nos émotions joyeuses. Combien de plaisirs présents se réduiraient pourtant, si nous les examinions de près, à n'être que des souvenirs de plaisirs passés? Que resterait-il de beaucoup de nos émotions si nous les ramenions à ce qu'elles ont de strictement senti, si nous en retranchions tout ce qui est simplement remémoré? Qui sait même si nous ne devenons pas, à partir d'un certain âge, imperméables à la joie fraîche et neuve, et si les plus douces satisfactions de l'homme mûr peuvent être autre chose que des sentiments d'enfance revivifiés? Brise parfumée que nous envoie par bouffées de plus en plus rares un passé de plus en plus lointain. Quelques réponses d'ailleurs qu'on fasse à cette question très générale, un point reste hors de doute, c'est qu'il ne peut pas y avoir solution de continuité entre le plaisir du jeu chez l'enfant et le même plaisir chez l'homme. Or, la comédie est bien un jeu qui imite la vie. Et si dans les jeux de l'enfant, alors qu'il manœuvre poupée, pantin, tout se fait par ficelle, ne sont-ce pas ces mêmes ficelles que nous devions retrouver, amincies par l'usage, dans les fils qui nouent les situations de comédie? Partons donc des jeux de l'enfant, suivons le progrès insensible par lequel il fait grandir ses pantins, les anime et les amène à cet état d'indécision finale, où, sans cesser d'être des pantins, ils sont pourtant devenus des hommes. Nous aurons ainsi des personnages de comédie, et nous pourrons vérifier sur eux la loi que nos précédentes analyses nous laissaient prévoir, loi par laquelle nous définirons les situations de vaudeville en général. Est comique tout arrangement d'actes et d'événements qui nous donne, insérés l'une dans l'autre, l'illusion de la vie et la sensation nette d'un agencement mécanique. Première section, le diable à ressort. Nous avons tous joué autrefois avec le diable qui sort de sa boîte. On l'aplatit, il se redresse. On le repousse plus bas, il rebondit plus haut. On l'écrase sous son couvercle et souvent il fait tout sauter. Je ne sais si ce jouet est très ancien, mais le genre d'amusement qu'il renferme est certainement de tous les temps. C'est le conflit de deux obstinations, dont l'une, purement mécanique, finit pourtant d'ordinaire par céder à l'autre qui s'en amuse. Le chat qui joue avec la souris, qui la laisse chaque fois partir comme un ressort pour l'arrêter net d'un coup de patte, se donne un amusement du même genre. Passons alors au théâtre. C'est par celui de Guignol que nous devons commencer. Quand le commissaire s'aventure sur la scène, il reçoit aussitôt, comme de juste, un coup de bâton qui l'assomme. Il se redresse, à un second coup l'aplatit. Nouvelle récidive, nouveau châtiment. Sur le rythme uniforme du ressort qui se tend et se détend, le commissaire s'abat et se relève, tandis que le rire de l'auditoire va toujours grandissant. Imaginons maintenant un ressort plutôt moral, une idée qui s'exprime, qu'on réprime et qui s'exprime encore, un flot de paroles qui s'élance, qu'on arrête et qui repart toujours. Nous avons de nouveau la vision d'une force qui s'obstine et d'un autre entêtement qui la combat. Mais cette vision aura perdu de sa matérialité. Nous ne serons plus à Guignol, nous assisterons à une vraie comédie. Beaucoup de scènes comiques se ramènent en effet à ce type simple. Ainsi, dans la scène du mariage forcé entre Sganarelle et Pancras, tout le comique vient d'un conflit entre l'idée de Sganarelle, qui veut forcer le philosophe à l'écouter, et l'obstination du philosophe, véritable machine à parler qui fonctionne automatiquement. À mesure que la scène avance, l'image du diable à ressort se dessine mieux, si bien qu'à la fin, les personnages eux-mêmes en adoptent le mouvement, Sganarelle repoussant chaque fois Pancras dans la coulisse, et Pancras revenant chaque fois sur la scène pour discourir encore. Et quand Sganarelle réussit à faire rentrer Pancras et à l'enfermer à l'intérieur de la maison, j'allais dire au fond de la boîte, tout à coup la tête de Pancras réapparaît par la fenêtre qui s'ouvre comme si elle faisait sauter un couvercle. Même jeu de scène dans le malade imaginaire. La médecine offensée déverse sur Argan par la bouche de M. Purgon la menace de toutes les maladies. Et chaque fois qu'Argan se soulève de son fauteuil, comme pour fermer la bouche à Purgon, nous voyons celui-ci s'éclipser un instant, comme si on l'enfonçait dans la coulisse, puis, comme mu par un ressort, remonter sur la scène avec une malédiction nouvelle. Une même exclamation sans cesse répétée, « Monsieur Purgon !» scande les moments de cette petite comédie. Serrons de plus près encore l'image du ressort qui se tend, se détend et se retend. Dégageons-en l'essentiel. Nous allons obtenir un des procédés usuels de la comédie classique, la répétition. D'où vient le comique de la répétition d'un mot au théâtre? On cherchera vainement une théorie du comique qui réponde d'une manière satisfaisante à cette question très simple. Et la question reste en effet insoluble tant qu'on veut trouver l'explication d'un trait amusant dans ce trait lui-même, isolé de ce qu'il nous suggère. Nulle part ne se trahit mieux l'insuffisance de la méthode courante. Mais la vérité est que si on laisse de côté quelques cas très spécieux sur lesquels nous reviendrons plus tard, la répétition d'un mot n'est pas risible par elle-même. Elle ne nous fait rire que parce qu'elle symbolise un certain jeu particulier d'éléments moraux, symbole lui-même d'un jeu tout matériel. C'est le jeu du chat qui s'amuse avec la souris, le jeu de l'enfant qui pousse et repousse le diable au fond de sa boîte, mais raffiné, spiritualisé, transporté dans la sphère des sentiments et des idées. Énonçons la loi qui définit selon nous les principaux effets comiques de répétition de mots au théâtre. Dans une répétition comique de mots, il y a généralement deux termes en présence, un sentiment comprimé qui se détend comme un ressort, et une idée qui s'amuse à comprimer de nouveau le sentiment. Quand Dorine raconte à Orgon la maladie de sa femme, et que celui-ci l'interrompt sans cesse pour s'enquérir de la santé de Tartuffe, la question qui revient toujours « Et Tartuffe ?» nous donne la sensation très nette d'un ressort qui part. C'est ce ressort que Dorine s'amuse à repousser en reprenant chaque fois le récit de la maladie d'Elmire. Et lorsque Scapin vient annoncer au vieux Géronte que son fils a été emmené prisonnier sur la fameuse galère, qu'il faut le racheter bien vite, il joue avec l'avarice de Géronte, absolument comme Dorine avec l'aveuglement d'Orgon. L'avarice, à peine comprimée, repart automatiquement, et c'est cet automatisme que Molière a voulu marquer par la répétition machinale d'une phrase où s'exprime le regret de l'argent qu'il va falloir donner. Que diable allait-il faire dans cette galère? Même observation pour la scène où Valère représente à Harpagon qu'il aurait tort de marier sa fille à un homme qu'elle n'aime pas. « Sans dot !» interrompt toujours l'avarice d'Harpagon. Et nous entrevoyons, derrière ce mot qui revient automatiquement, un mécanisme à répétition monté par l'idée fixe. Quelquefois, il est vrai, ce mécanisme est plus malaisé à apercevoir. Et nous touchons ici à une nouvelle difficulté de la théorie du comique. Il y a des cas où tout l'intérêt d'une scène est dans un personnage unique qui se dédouble, son interlocuteur jouant le rôle d'un simple prisme, pour ainsi dire, au travers duquel s'effectue le dédoublement. Nous risquons alors de faire fausse route si nous cherchons le secret de l'effet produit dans ce que nous voyons et entendons dans la scène extérieure qui se joue entre les personnages, et non pas dans la comédie intérieure que cette scène ne fait que réfracter. Par exemple, quand Alceste répond obstinément « Je ne dis pas cela » à Oronte, qui lui demande s'il trouve ses vers mauvais. La répétition est comique. Et pourtant, il est clair qu'Oronte ne s'amuse pas ici avec Alceste au jeu que nous décrivions tout à l'heure. Mais qu'on y prenne garde. Il y a en réalité ici deux hommes dans Alceste. D'un côté le misanthrope qui s'est juré maintenant de dire aux gens leur fête, et d'autre part le gentilhomme qui ne peut désapprendre tout d'un coup les formes de la politesse, ou même peut-être simplement l'homme excellent qui recule au moment décisif où il faudrait passer de la théorie à l'action, blesser un amour-propre, faire de la peine. La véritable scène n'est plus alors entre Alceste et Oronte, mais bien entre Alceste et Alceste lui-même. De ces deux Alcestes, il y en a un qui voudrait éclater et l'autre qui lui ferme la bouche au moment où il va tout dire. Chacun des « oh, je le dis pas cela » représente un effort croissant pour refouler quelque chose qui pousse et presse pour sortir. Le ton de ces « je ne dis pas cela » devient donc de plus en plus violent, Alceste se fâchant de plus en plus, non pas contre Oronte, comme il le croit, mais contre lui-même. Et c'est ainsi que la tension du ressort va toujours se renouvelant, toujours se renforçant jusqu'à la détente finale. Le mécanisme de la répétition est donc bien encore le même. Qu'un homme se décide à ne plus jamais dire que ce qu'il pense, dût-il rompre en visière à tout le genre humain, cela n'est pas nécessairement comique, c'est de la vie et de la meilleure. Qu'un autre homme, par douceur de caractère, égoïsme ou dédain, aime mieux dire aux gens ce qui les flatte, ce n'est que de la vie encore. Il n'y a rien là pour nous faire rire. Et réunissez même ces deux hommes en un seul. Faites que votre personnage hésite entre une franchise qui blesse et une politesse qui trompe. Cette lutte de deux sentiments contraires ne sera pas encore comique. Elle paraîtra sérieuse si les deux sentiments arrivent à s'organiser par leur contrariété même, à progresser ensemble, à créer un état d'âme composite, enfin à adopter un modus vivendi qui nous donne purement et simplement l'impression complexe de la vie. Mais supposez maintenant, dans un homme bien vivant, ces deux sentiments irréductibles et raides. Faites que l'homme oscille de l'un à l'autre, faites surtout que cette oscillation devienne franchement mécanique en adoptant la forme connue d'un dispositif usuel, simple, enfantin. Vous aurez cette fois l'image que nous avons trouvée jusqu'ici dans les objets risibles. Vous aurez du mécanique dans du vivant, vous aurez du comique. Nous nous sommes assez appesantis sur cette première image, celle du diable en sort, pour faire comprendre comment la fantaisie comique convertit peu à peu un mécanisme matériel en un mécanisme moral. Nous allons examiner un ou deux autres jeux, mais en nous bornant maintenant à des indications sommaires. Section 2, le pantin à ficelle. Innombrables sont les scènes de comédie où un personnage croit parler et agir librement, où ce personnage conserve par conséquent l'essentiel de la vie, Alors qu'envisagé d'un certain côté, il apparaît comme un simple jouet entre les mains d'un autre qui s'en amuse. Du pantin que l'enfant manœuvre avec une ficelle à Géronte et à Argante, manipulé par Scapin, l'intervalle est facile à franchir. Écoutez plutôt Scapin lui-même. La machine est toute trouvée, et encore, c'est le ciel qui les amène dans mes filets, etc. Par un instinct naturel, et parce qu'on aime mieux, en imagination au moins, être dupeur que dupé, c'est du côté des fourbes que se met le spectateur. Il lit parti avec eux, et désormais, comme l'enfant qui a obtenu d'un camarade qui lui prête sa poupée, il fait lui-même aller et venir sur la scène le fantoche dont il a pris en main les ficelles. Toutefois, cette dernière condition n'est pas indispensable. Nous pouvons aussi bien rester extérieurs à ce qui se passe, pourvu que nous conservions la sensation bien nette d'un agencement mécanique. C'est ce qui arrive dans les cas où un personnage oscille entre deux parties opposées à prendre, chacun de ces deux parties le tirant à lui tour à tour, tel Panurge demandant à Pierre et à Paul s'il doit se marier. Remarquons que l'auteur comique a soin alors de personnifier les deux parties contraires. À défaut du spectateur, il faut au moins des acteurs pour tenir les ficelles. Tout le sérieux de la vie lui vient de notre liberté. Les sentiments que nous avons mûris, les passions que nous avons couvées, les actions que nous avons délibérées, arrêtées, exécutées, enfin, ce qui vient de nous et ce qui est bien nôtre, voilà ce qui donne à la vie son allure quelquefois dramatique et généralement grave. Et que faudrait-il pour transformer tout cela en comédie? Il faudrait se figurer que la liberté apparente recouvre un jeu de ficelles, et que nous sommes ici-bas, comme dit le poète, d'humbles marionnettes dont le fil est aux mains de la nécessité. Il n'y a donc pas de scène réelle, sérieuse, dramatique même, que la fantaisie ne puisse pousser au comique par l'évocation de cette simple image. Il n'y a pas de jeu auquel un champ plus vaste soit ouvert. Section 3. La boule de neige. À mesure que nous avançons dans cette étude des procédés de comédie, nous comprenons mieux le rôle que jouent les réminiscences d'enfance. Cette réminiscence porte peut-être moins sur tel ou tel sujet spécial que sur le dispositif mécanique dont ce jeu est une application. Le même dispositif général peut d'ailleurs se retrouver dans des jeux très différents, comme le même air d'opéra dans beaucoup de fantaisies musicales. Ce qui importe ici, c'est que l'esprit retient, et qui passe par gradation insensible des jeux de l'enfant à ceux de l'homme, c'est le schéma de la combinaison ou, si vous voulez, la formule abstraite dont ces jeux sont des applications particulières. Voici par exemple la boule de neige qui roule et qui grossit en roulant. Nous pourrions aussi bien penser à des soldats de plomb rangés à la file les uns des autres. Si l'on pousse le premier, il tombe sur le second, lequel abat le troisième, et la situation va s'aggravant jusqu'à ce que tous soient par terre. Ou bien encore, ce sera un château de cartes laborieusement monté. La première qu'on touche hésite à se déranger, sa voisine ébranlée se décide plus vite et le travail de destruction s'accélérant en route court vertigineusement à la catastrophe finale. Tous ces objets sont très différents, mais ils nous suggèrent, pourrait-on dire, la même vision abstraite, celle d'un effet qui se propage en s'ajoutant à lui-même, de sorte que la cause insignifiante à l'origine aboutit par un progrès nécessaire à un résultat aussi important qu'inattendu. Ouvrons maintenant un livre d'images pour enfants. Nous allons voir ce dispositif s'acheminer déjà vers la forme d'une scène comique. Voici par exemple, où j'ai pris au hasard une série d'Épinal, un visiteur qui entre avec précipitation dans un salon. Il pousse une dame qui renverse sa tasse de thé sur un vieux monsieur, lequel glisse comme une vitre qui tombe dans la rue sur la tête d'un agent qui met la police sur pied, etc. Même dispositif dans bien des images pour grandes personnes. Dans les histoires sans parole que crayonnent les dessinateurs comiques, il y a souvent un objet qui se déplace et des personnes qui en sont solidaires. Alors, de scène en scène, le changement de position de l'objet amène mécaniquement des changements de situation de plus en plus graves entre les personnes. Bien, passons maintenant à la comédie. Combien de scènes bouffonnes, combien de comédies même vont se ramener à ce type simple ? Qu'on relise le récit de Chicano dans les plaideurs. Ce sont des procès qui s'engrènent dans des procès et le mécanisme fonctionne de plus en plus vite. Racine nous donne ce sentiment d'une accélération croissante en pressant de plus en plus les termes de procédure les uns contre les autres, jusqu'à ce que la poursuite engagée par une botte de foin coûte au plaideur le plus clair de sa fortune. Même arrangement encore dans certaines scènes de Don Quichotte, par exemple dans celle de l'hôtellerie, où un singulier enchaînement de circonstances amène le muletier à frapper Sancho, qui frappe sur Marie Thorne, sur laquelle tombe l'aubergiste, etc. Arrivons enfin au vaudeville contemporain. Est-il besoin de rappeler toutes les formes sous lesquelles cette même combinaison se présente ? Il y en a une dont on use assez souvent. C'est de faire qu'un certain objet matériel, une lettre par exemple, soit d'une importance capitale pour certains personnages et qu'il faille le retrouver à tout prix. Cet objet, qui échappe toujours quand on croit le tenir, roule alors à travers la pièce en ramassant sur sa route des incidents de plus en plus graves, de plus en plus inattendus. Tout cela ressemble bien plus qu'on le croirait d'abord à un jeu d'enfant. C'est toujours l'effet de la boule de neige. Le propre d'une combinaison mécanique est d'être généralement réversible. L'enfant s'amuse à voir une bille lancée contre des quilles renverser tout sur son passage en multipliant les dégâts. Il rit plus encore lorsque la bille, après des tours, détours, hésitations de tout genre, revient à son point de départ. En d'autres termes, le mécanisme que nous décrivions tout à l'heure est déjà comique quand il est rectiligne. Il l'est davantage quand il devient circulaire et que les effets du personnage aboutissent, par un engrenage fatal de causes et d'effets, à le ramener purement et simplement à la même place. Or, on verrait que bon nombre de vaudevilles gravitent autour de cette idée. Un chapeau de paille d'Italie a été mangé par un cheval. Un seul chapeau et semblable existe dans Paris, il faut à tout prix qu'on le retrouve. Et ce chapeau, qui recule toujours au moment où on va le saisir, fait courir le personnage principal, lequel fait courir les autres qui s'accrochent à lui. Tel l'aimant entraîne à sa suite, par une attraction qui se transmet de proche en proche, les brins de limaille de fer suspendus les uns aux autres. Et lorsque, enfin, d'incident en incident, on croit toucher au but, le chapeau tant désiré se trouve être celui-là même qui a été mangé. Même Odyssée dans une autre comédie non moins célèbre de la biche. On nous montre d'abord, faisant leur quotidienne partie de cartes ensemble, un vieux garçon et une vieille fille qui sont de vieilles connaissances. Ils se sont adressés tous deux, chacun de son côté, à une même agence matrimoniale. À travers mille difficultés et de mésaventure en mésaventure, ils courent côte à côte le long de la pièce à l'entrevue qui les remet purement et simplement en présence l'un de l'autre. Même effet circulaire, même retour au point de départ dans une pièce plus récente. Un mari persécuté croit échapper à sa femme et à sa belle-mère par le divorce. Il se remarie. Et voici que le jeu combiné du divorce et du mariage lui ramène son ancienne femme, aggravée sous forme de nouvelle belle-mère. Quand on songe à l'intensité et à la fréquence de ce genre de comique, on comprend qu'il ait frappé l'imagination de certains philosophes. Faire beaucoup de chemin pour revenir sans le savoir au point de départ, c'est fournir un grand effort pour un résultat nul. On pouvait être tenté de définir le comique de cette dernière manière. Telle paraît être l'idée de Herbert Spencer. Le rire serait l'indice d'un effort qui rencontre tout à coup le vide. Kant disait déjà « Le rire vient d'une attente qui se résout subitement en rien ». Nous reconnaissons que ces définitions s'appliqueraient à nos derniers exemples. Encore faudrait-il apporter certaines restrictions à la formule, car il y a bien des efforts inutiles qui ne font pas rire. Mais si nos derniers exemples présentent une grande cause aboutissant à un petit effet, nous en avons cité d'autres tout de suite auparavant, qui devraient se définir de la manière inverse, un grand effet sortant d'une petite cause. La vérité est que cette seconde définition ne vaudrait guère mieux que la première. La disproportion entre la cause et l'effet, qu'elle se présente dans un sens ou dans l'autre, n'est pas la source directe du rire. Nous rions de quelque chose que cette disproportion peut, dans certains cas, manifester, je veux dire de l'arrangement mécanique spécial qu'elle nous laisse apercevoir par transparence derrière la série des effets et des causes. Négligez cet arrangement, vous abandonnez le seul fil conducteur qui puisse vous guider dans le labyrinthe du comique, et la règle que vous aurez suivie, applicable peut-être à quelques cas convenablement choisis, reste exposée à la mauvaise rencontre du premier exemple venu qui l'anéantira. Mais pourquoi rions-nous de cet arrangement mécanique? Que l'histoire d'un individu ou celle d'un groupe nous apparaisse à un moment donné comme un jeu d'engrenage, de ressort ou de ficelle, cela est étrange sans doute, mais d'où vient le caractère spécial de cette étrangeté? Pourquoi est-elle comique? À cette question, qui s'est déjà posée à nous sous bien des formes, nous ferons toujours la même réponse. Le mécanisme raide que nous surprenons de temps à autre, comme un intrus dans la vivante continuité des choses humaines, a pour nous un intérêt tout particulier parce qu'il est comme une distraction de la vie. Si les événements pouvaient être sans cesse attentifs à leur propre cours, il n'y aurait pas de coïncidence, pas de rencontre, pas de série circulaire. Tout se déroulerait en avant et progresserait toujours. Et si les hommes étaient toujours attentifs à la vie, si nous reprenions constamment contact avec autrui et aussi avec nous-mêmes, jamais rien ne paraîtrait se produire en nous par ressort ou par ficelle. Le comique est ce côté de la personne par lequel elle ressemble à une chose, cet aspect des événements humains qui imite par sa raideur, d'un genre tout particulier, le mécanisme pur et simple, l'automatisme, enfin le mouvement sans la vie. Il exprime donc une imperfection individuelle ou collective qui appelle la correction immédiate. Le rire est cette correction même. Le rire est un certain geste social qui souligne et réprime une certaine distraction spéciale des hommes et des événements. Mais ceci nous invite à chercher plus loin et plus haut. Nous nous sommes amusés jusqu'ici à retrouver dans les jeux de l'homme certaines combinaisons mécaniques qui divertissent l'enfant. C'était là une manière empirique de procéder. Le moment est venu de tenter une déduction méthodique et complète, d'aller puiser à leur source même, dans leurs principes permanents et simples, les procédés multiples et variables du théâtre comique. Ce théâtre, disions-nous, combine les événements de manière à insinuer un mécanisme dans les formes extérieures de la vie. Déterminons donc les caractères essentiels par lesquels la vie, envisagée du dehors, paraît tranchée sur un simple mécanisme. Il nous suffira alors de passer aux caractères opposés pour obtenir la formule abstraite cette fois générale et complète, des procédés de comédie réels et possibles. La vie se présente à nous comme une certaine évolution dans le temps et comme une certaine complication dans l'espace. Considérée dans le temps, elle est le progrès continu d'un être qui vieillit sans cesse. C'est dire qu'elle ne revient jamais en arrière et ne se répète jamais. Envisagée dans l'espace, elle étale à nos yeux des éléments coexistants, si intimement solidaires entre eux, si exclusivement faits les uns pour les autres, qu'aucun d'eux ne pourrait appartenir en même temps à deux organismes différents. Chaque être vivant est un système clos de phénomènes incapable d'interférer avec d'autres systèmes. Changement continu d'aspect, irréversibilité des phénomènes, individualité parfaite d'une série enfermée en elle-même, voilà les caractères extérieurs, réels ou apparents, peu importe, qui distinguent le vivant du simple mécanique. Prenons-en le contre-pied. Nous aurons trois procédés que nous appellerons, si vous voulez, la répétition, l'inversion et l'interférence des séries. Il est aisé de voir que ces procédés sont ceux du vaudeville et qu'il ne saurait y en avoir d'autres. On les trouverait d'abord mélangés à doses variables dans les scènes que nous venons de passer en revue et à plus forte raison dans les jeux d'enfants dont elles reproduisent le mécanisme. Nous ne nous attarderons pas à faire cette analyse. Il sera plus utile d'étudier ces procédés à l'état pur sur des exemples nouveaux. Rien ne sera plus facile d'ailleurs, car c'est souvent à l'état pur qu'on les rencontre dans la comédie classique aussi bien que dans le théâtre contemporain. 1. La répétition. Il ne s'agit plus, comme tout à l'heure, d'un mot ou d'une phrase qu'un personnage répète, mais d'une situation, c'est-à-dire d'une combinaison de circonstances qui revient telle quelle à plusieurs reprises, tranchant ainsi sur le cours changeant de la vie. L'expérience nous présente déjà ce genre de comique, mais à l'état rudimentaire seulement. Ainsi, je rencontre un jour dans la rue un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. La situation n'a rien de comique. Mais si le même jour je le rencontre de nouveau, et encore une troisième, une quatrième fois, nous finissons par rire ensemble de la coïncidence. Figurez-vous alors une série d'événements imaginaires qui vous donnent suffisamment l'illusion de la vie, et supposez, au milieu de cette série qui progresse, une même scène qui se reproduise, soit entre les mêmes personnages, soit entre des personnages différents. Vous aurez une coïncidence encore, mais plus extraordinaire. Telles sont les répétitions qu'on nous présente au théâtre. Elles sont d'autant plus comiques que la scène répétée est plus complexe et aussi qu'elle est amenée plus naturellement. Deux conditions qui paraissent s'exclure et que l'habileté de l'auteur dramatique devra réconcilier. Le vaudeville contemporain use de ce procédé sous toutes ses formes. Une des plus connues consiste à promener un certain groupe de personnages, d'acte en acte, dans les milieux les plus divers, de manière à faire renaître dans des circonstances toujours nouvelles une même série d'événements ou de mésaventures qui se correspondent symétriquement. Plusieurs pièces de Molière nous offrent une même composition d'événements qui se répètent d'un bout de la comédie à l'autre. Ainsi, l'école des femmes ne fait que ramener et reproduire un certain effet à trois temps. Premier temps, Horace raconte à Arnolphe ce qu'il a imaginé pour tromper le tuteur d'Agnès, qui se trouve être Arnolphe lui-même. Deuxième temps, Arnolphe croit avoir paré le coup. Troisième temps, Agnès fait tourner les précautions d'Arnolphe au profit d'Horace. Même périodicité régulière dans l'école des Maris, dans l'Étourdi et surtout dans Georges Dandin, où le même effet à trois temps se retrouve. Premier temps, Georges Dandin s'aperçoit que sa femme le trompe. Deuxième temps, il appelle ses beaux-parents à son secours. Troisième temps, c'est lui, Georges Dandin, qui fait des excuses. Parfois, c'est entre des groupes de personnages différents que se reproduira la même scène. Il n'est pas rare alors que le premier groupe comprenne les maîtres et le second les domestiques. Les domestiques viendront répéter, dans un autre ton, transposé en style moins noble, une scène déjà jouée par les maîtres. Une partie du dépit amoureux est construite sur ce plan, ainsi qu'Amphitryon. Dans une amusante petite comédie de Bénédix, Der Engelstein, l'ordre est inverse. Ce sont les maîtres qui reproduisent une scène d'obstination dont les domestiques leur ont donné l'exemple. Mais, quels que soient les personnages entre lesquels des situations symétriques sont ménagées, une différence profonde paraît subsister entre la comédie classique et le théâtre contemporain. Introduire dans les événements un certain ordre mathématique en leur conservant néanmoins l'aspect de la vraisemblance, c'est-à-dire de la vie, voilà toujours ici le but. Mais les moyens employés diffèrent. Dans la plupart des vaudevilles, on travaille directement l'esprit du spectateur. Si extraordinaire en effet que soit la coïncidence, elle deviendra acceptable par cela seul qu'elle sera acceptée, et nous l'accepterons si l'on nous a préparé peu à peu à la recevoir. Ainsi procèdent souvent les auteurs contemporains. Au contraire, dans le théâtre de Molière, ce sont les dispositions des personnages, non pas celles du public, qui font que la répétition paraît naturelle. Chacun de ces personnages représente une certaine force appliquée dans une certaine direction, et c'est parce que ces forces de direction constante se composent nécessairement entre elles de la même manière que la même situation se reproduit. La comédie de situation ainsi entendue confine donc à la comédie de caractère. Elle mérite d'être appelée classique, s'il est vrai que l'art classique soit celui qui ne prétend pas tirer de l'effet plus qu'il l'a mis dans la cause. 2. L'inversion. Ce second procédé a tant d'analogies avec le premier que nous nous contenterons de le définir sans insister sur les applications. Imaginez certains personnages dans une certaine situation. Vous obtiendrez une scène comique en faisant que la situation se retourne et que les rôles soient intervertis. Dans ce genre est la double scène de sauvetage dans le voyage de M. Perrichon. Mais il n'est même pas nécessaire que les deux scènes symétriques soient jouées sous nos yeux. On peut ne nous en montrer qu'une, pourvu qu'on soit sûr que nous pensons à l'autre. C'est ainsi que nous rions du prévenu qui fait de la morale au juge, de l'enfant qui prétend donner des leçons à ses parents, enfin de ce qui vient se classer sous la rubrique du monde renversé. Souvent, on nous présentera un personnage qui prépare les filets où il viendra lui-même se faire prendre. L'histoire du persécuteur victime de sa persécution, du dupeur dupé, fait le fond de bien des comédies. Nous la trouvons déjà dans l'ancienne farce. L'avocat Patelin indique à son client un stratagème pour tromper le juge, et le client usera du stratagème pour ne pas payer l'avocat. Une femme acariâtre exige de son mari qu'il fasse tous les travaux du ménage. Elle en a consigné le détail sur un relais. Qu'elle tombe maintenant au fond d'une cuve, son mari refusera de l'en tirer. Ah, cela n'est pas sur mon relais. La littérature moderne a exécuté bien d'autres variations sur le thème du voleur volé. Il s'agit toujours, au fond, d'une interversion des rôles et d'une situation qui se retourne contre celui qui l'a créée. Ici se vérifierait une loi que nous avons déjà signalée et dont nous avons signalé plus d'une explication. Quand une scène comique a été souvent reproduite, elle passe à l'état de catégorie ou de modèle. Elle devient amusante par elle-même, indépendamment des causes qui font qu'elle nous a amusés. Alors, des scènes nouvelles, qui ne sont pas comiques en droit, pourront nous amuser en fait si elles ressemblent à celles-là par quelque côté. Elles évoqueront, plus ou moins confusément dans notre esprit, une image que nous savons drôle. Elles viendront se classer dans un genre où figure un type de comique officiellement reconnu. La scène du voleur volé est de cette espèce. Elle irradie sur une foule d'autres scènes de comique qu'elle renferme. Elle finit par rendre comique toutes mes aventures qu'on s'est attirées par sa faute, quelle que soit la faute, quelle que soit la mésaventure, que dis-je ? Une allusion à cette mésaventure, un mot qui la rappelle. Tu l'as voulu, genre de dandin. Ce mot n'aurait rien d'amusant sans les résonances comiques qui le prolongent. 3. Mais nous avons assez parlé de la répétition et de l'inversion. Nous arrivons à l'interférence des séries. C'est un effet comique dont il est difficile de dégager la formule à cause de l'extraordinaire variété des formes sous lesquelles il se présente au théâtre. Voici peut-être comment il faudrait le définir. Une situation est toujours comique quand elle appartient en même temps à deux séries d'événements absolument indépendantes et qu'elle peut s'interpréter à la fois dans deux sens tout différents. On pensera aussitôt au quiproquo. Et le quiproquo est bien en effet une situation qui présente en même temps deux sens différents, l'un simplement possible, celui que les acteurs lui prêtent, et l'autre réel, celui que le public lui donne. Nous apercevons le sens réel de la situation parce qu'on a eu soin de nous en montrer toutes les faces. Mais les acteurs ne connaissent chacun que l'une d'elles. De là leur méprise, de là le jugement faux qu'ils portent sur ce qu'on fait autour d'eux, comme aussi sur ce qu'ils font eux-mêmes. Nous allons de ce jugement faux au jugement vrai. Nous oscillons entre le sens possible et le sens réel. Et c'est ce balancement de notre esprit entre deux interprétations opposées qui apparaît d'abord dans l'amusement que le quiproquo nous donne. On comprend que certains philosophes aient été surtout frappés de ce balancement et que quelques-uns aient vu l'essentiel même du comique dans un choc ou dans une superposition de deux jugements qui se contredisent. Mais leur définition est loin de convenir à tous les cas. Et là même où elle convient, elle ne définit pas le principe du comique, mais seulement une de ses conséquences plus ou moins lointaines. Il est aisé de voir en effet que le quiproquo théâtral n'est que le cas particulier d'un phénomène plus général, l'interférence des séries indépendantes, et que d'ailleurs le quiproquo n'est pas risible par lui-même, mais seulement comme signe d'une interférence de séries. Dans le quiproquo, en effet, chacun des personnages est inséré dans une série d'événements qui le concernent, dont il a la représentation exacte et sur lesquels il règle ses paroles et ses actes. Chacune des séries intéressant chacun des personnages se développe d'une manière indépendante. Mais elles se sont rencontrées à un certain moment dans des conditions telles que les actes et les paroles qui font partie de l'une d'elles puissent aussi bien convenir à l'autre. De là la méprise des personnages, de là l'équivoque. Mais cet équivoque n'est pas comique par elle-même. Elle ne l'est que parce qu'elle manifeste la coïncidence des deux séries indépendantes. La preuve en est que l'auteur doit constamment s'ingénier à ramener notre attention sur ce double fait, l'indépendance et la coïncidence. Il y arrive d'ordinaire en renouvelant sans cesse la fausse menace d'une dissociation entre les deux séries qui coïncident. À chaque instant, tout va craquer et tout se raccommode. C'est ce jeu qui fait rire, bien plus que le va-et-vient de notre esprit entre deux affirmations contradictoires. Et il nous fait rire parce qu'il rend manifeste à nos yeux l'interférence de deux séries indépendantes, source véritable de l'effet comique. Aussi, le quiproquo ne peut-il être qu'un cas particulier. C'est un des moyens, bon, le plus artificiel peut-être, de rendre sensible l'interférence des séries. Mais ce n'est pas le seul. Au lieu de deux séries contemporaines, on pourrait aussi bien prendre une série d'événements anciens et une autre actuelle. Si les deux séries arrivent à interférer dans notre imagination, il n'y aura plus quiproquo, et pourtant le même effet comique continuera à se produire. Pensez à la captivité de Bonivard dans le château de Chillon. Voilà une première série de faits. Représentez-vous ensuite Tartarin, voyageant en Suisse, arrêté, emprisonné. Seconde série indépendante de la première. Faites maintenant que Tartarin soit rivé à la propre chaîne de Bonivard et que les deux histoires paraissent un instant coïncider. Vous aurez une scène très amusante, une des plus amusantes que la fantaisie de Daudet ait tracée. Beaucoup d'incidents du genre héroïque-comique se décomposeraient ainsi. La transposition généralement comique de l'ancien au moderne s'inspire de la même idée. La biche a usé du procédé sous toutes ses formes. Tantôt il commence par constituer les séries indépendantes et s'amuse ensuite à les faire interférer entre elles. Il prendra un groupe fermé, une noce par exemple, et le fera tomber dans des milieux tout à fait étrangers où certaines coïncidences lui permettront de s'intercaler momentanément. Tantôt il conservera à travers la pièce un seul et même système de personnages, mais il fera que quelques-uns de ces personnages aient quelque chose à dissimuler, soient obligés de s'entendre entre eux, jouent enfin une petite comédie au milieu de la grande. Et à chaque instant, l'une des deux comédies va déranger l'autre, puis les choses s'arrangent et la coïncidence des deux séries se rétablit. Tantôt enfin, c'est une série d'événements tout idéal qu'il intercalera dans la série réelle, par exemple un passé qu'on voudrait cacher et qui fait sans cesse irruption dans le présent et qu'on arrive chaque fois à réconcilier avec une situation qu'il semblait devoir bouleverser. Mais toujours, nous retrouvons les deux séries indépendantes et toujours la coïncidence partielle. Nous ne pousserons pas plus loin cette analyse des procédés du vaudeville. Qu'il y ait interférence de séries, inversion ou répétition, nous voyons que l'objet est toujours le même, obtenir ce que nous avons appelé une mécanisation de la vie. On prendra un système d'action et de relations et on le répétera tel quel, ou on le retournera sans dessus-dessous, ou on le transportera en bloc dans un autre système avec lequel il coïncide en partie. Toutes opérations qui consistent à traiter la vie comme un mécanisme à répétition avec effets réversibles et pièces interchangeables. La vie réelle est un vaudeville dans l'exacte mesure où elle produit naturellement des effets du même genre, et par conséquent, dans l'exacte mesure où elle s'oublie elle-même. Car si elle faisait sans cesse attention, elle serait continuité variée, progrès irréversible, unité indivisée. Et c'est pourquoi le comique des événements peut se définir une distraction des choses, de même que le comique d'un caractère individuel tient toujours, comme nous le faisions pressentir et comme nous le montrerons en détail plus loin, à une certaine distraction fondamentale de la personne. Mais cette distraction des événements est exceptionnelle. Les effets en sont légers. Elle est en tout cas incorrigible de sorte qu'il ne sert à rien d'en rire. C'est pourquoi l'idée ne serait pas venue de l'exagérer et de l'ériger en système, de créer un art pour elle, si le rire n'était un plaisir et si l'humanité ne saisissait au vol la moindre occasion de le faire naître. Ainsi s'explique le vaudeville, qui est à la vie réelle ce que le pantin articulé est à l'homme qui marche, une exagération très artificielle d'une certaine raideur naturelle des choses. Le fil qui le relie à la vie réelle est bien fragile. Ce n'est guère qu'un jeu, subordonné comme tous les jeux à une convention d'abord acceptée. La comédie de caractère pousse dans la vie des racines autrement profondes. C'est d'elle surtout que nous nous occuperons dans la dernière partie de notre étude. Mais nous devons d'abord analyser un certain genre de comique qui ressemble par bien des côtés à celui du vaudeville, le comique de mots.